Aujourd'hui, avec Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
J'ai le plaisir d'accueillir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Cupiec pour son livre « Et si le vivant était anarchique ?» sous-titré « La génétique est-elle une gigantesque arnaque ?» Je suis déjà un petit silence là pour que nos auditeurs apprécient quand même et le titre et le sous-titre. C'est paru il y a quelques mois, l'été dernier, hein, c'est ça Jean-Jacques?
Non, il y a 6 semaines.
Il y a 6 semaines, c'est paru il y a 6 semaines, donc c'est tout frais, au lien qui libère. Alors Jean-Jacques, je peux dire que tu étais venu déjà nous voir dans cette émission du temps où c'était le matérialisme. On avait parlé à l'époque d'épigénétique, c'était je crois en 2013, hein, si ma mémoire est bonne. Et je voulais d'abord dire que tu as de la suite dans les idées, parce qu'en 2000, tu avais publié un titre qui nous avait déjà parlé à l'époque, qui s'appelait « Ni Dieu ni gêne ». Ni Dieu ni gêne, et là, tu récidives en quelque sorte, parce que tu nous parles d'un vivant qui serait anarchique. Comment ta réflexion t'a conduit à cette idée d'un vivant anarchique et après, au fur et à mesure de la discussion, on va creuser ça et voir un peu dans les détails. Mais dans un premier temps, comment tu en es venu à cette élaboration?
Donc, le point de départ, moi je suis biologiste, donc j'ai fait des études de biologie et ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est la vision classique du programme génétique, de la génétique et du programme génétique, qui est, je vais aller vite, hein, tu me demandes de préciser s'il le faut, qui est autoritaire. C'est-à-dire que la biologie officielle ne parle que de, et c'est c'est les mots qui sont employés par les biologistes, d'instruction, de cellules qui interagissent. Nous sommes des sociétés cellulaires, nous sommes des êtres pluricellulaires et nous sommes faits d'une multitude de cellules qui forment une société. Mais pour expliquer les interactions entre les cellules, les concepts qui sont utilisés sont des concepts autoritaires tels que l'instruction ou même parfois on parle de gène maître. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas une caricature, ce sont les termes qu'on trouve dans la littérature scientifique. Le mot programme lui-même est déjà porteur d'une idée de l'ordre, de déterminisme. Et donc, ces concepts on parle de modèle instructif, de gène maître, de programme génétique, tout ça, c'est une théorie, hein, un ensemble théorique. Et déterministe, et on explique que ces interactions entre cellules, donc ordonnées, déterminées, c'est l'expression d'une information génétique. Et que ce que nous sommes, c'est dicté par ce qui est écrit dans le génome. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous préexiste, qui est l'information génétique, et qui fait ce que nous sommes par un ensemble d'interactions qui sont donc sur ce mode autoritaire, de fait d'instruction, une suite de cascades d'événements déterminés. Pour un ensemble de raisons, à la fois théoriques et expérimentales, j'ai remis en cause cette manière de voir le vivant. Et il se trouve que j'en suis arrivé à cette conception donc anarchique, à la nécessité d'une conception anarchique. Donc là, je peux reprendre l'étymologie, parce que l'étymologie va peut-être éclairer mon propos, parce que c'est vraiment à ce niveau, il faut le prendre au pied de la lettre. Anarchie, ça veut dire anarchos et anarché. Et arché, en grec, ça signifie à la fois principe autoritaire, chef, mais pas seulement, ça veut dire aussi origine. Oui. Et origine, et donc c'est l'idée, donc l'anarchie, c'est l'idée qu'il n'y a pas de principe d'ordre et d'origine à l'ordre qui préexiste, par exemple, à la société ou à la société, quand on parle de l'anarchie. Et donc moi, ce que je pense, en fait, c'est qu'effectivement, la biologie a besoin. Donc juste une remarque, c'est que l'idée d'origine, parce qu'arché, ça veut dire origine, gène, ça veut aussi dire origine. Gène, c'est génos, et ça a la même étymologie, que ça renvoie à l'idée d'origine. Et précisément, ce que je soutiens, c'est contrairement à cette vision déterministe, pour un ensemble de raisons qu'on va expliciter probablement au cours de l'émission, la biologie a besoin d'une vision anarchiste, au vrai sens du terme, au sens étymologique. Et qu'il n'y a rien qui nous préexiste et qui détermine ce que nous sommes. Nous sommes une construction ici et maintenant, c'est-à-dire que les cellules ne sont pas déterminées par quelque chose qui leur préexiste, qui est donc une information génétique, une archée, mais elles se construisent, l'être se construit ici et maintenant par des interactions qui ont lieu en permanence.
Juste une précision pour aller dans ton sens, on dit bien aujourd'hui dans le langage courant, c'est dans son ADN, ce qui veut dire c'est sa raison d'être, ça fait ce qu'il est, on le dit autant d'ailleurs d'une entreprise que de quelqu'un, donc ça montre bien que c'est quelque chose qui préexiste à l'individu ou à l'entreprise elle-même. Quoi.
Et donc, absolument, cet aspect-là, montre le caractère, bon là on va peut-être un peu vite, on a passé des étapes, mais
on va y revenir.
Ça montre le caractère idéologique, allons, mettons les pieds dans le plat directement, ça montre le caractère que la génétique porte des messages qui ne sont pas strictement scientifiques, que c'est une idéologie qui porte des messages qui vont bien au-delà. Et donc, aussi pour aller vite, moi ce que je crois, c'est qu'on a projeté sur le vivant. Et nous ne sommes capables, les biologistes ne sont capables que d'imaginer le vivant qu'en fonction de ce qui est déjà en nous. C'est une projection de l'état de la société actuelle sur le vivant. Et en retour, pourquoi c'est une idéologie et que c'est une arnaque ? C'est qu'en retour, ça sert à justifier la société, ça sert à justifier l'ordre social. Et les inégalités sociales en retour. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est à en quelque sorte, contrer cette arnaque, si je puis dire, ou à prendre le contre-pied. Et je mets en avant des métaphores, justement. Je pense qu'il faut renverser les métaphores.
Ce qui est important de souligner, donc on a bien vu le cadre un peu général dans lequel tu situes ta réflexion, mais... Dans cet ouvrage et dans les livres précédents et les articles que tu as publiés, ils sont basés sur tes recherches scientifiques, les expériences et les théories que tu discutes. La génétique, c'est une science, une partie de la science biologique qui est relativement neuve, puisqu'on l'a fait commencer avec un moine autrichien, je crois, qui vit en Bohême, c'est Mendel, qui va faire des expériences sur des petits pois et qui va donc mettre à jour certaines propriétés du vivant et va énoncer des lois. Ça date de 1865. Gérard, oui, vas-y,
Je corrige parce que c'est pas Mendel lui-même qui énonce les lois, c'est 30 ans plus tard les lois sont énoncées. Mais ce qui est important, effectivement, c'est qu'il est admis dans l'histoire des sciences et que c'est lui qui est le fondateur de la génétique et donc qui est le fondateur qui, sans les dire, pose un certain nombre de lois de l'hérédité. Or, Jean-Jacques fait une relecture très intéressante. On dit que c'est lui qui, le premier, parle de gènes. À l'époque, il parle pas de Jeanne, il parle de facteurs ou d'éléments héréditaires, mais Jean-Jacques dit qu'il n'en parle même pas. Donc, Jean-Jacques, on aimerait bien t'écouter sur cette destruction du mythe un petit peu.
Bah oui, c'est à se demander si quelqu'un a lu l'article de Mendel, parce que dans l'article de Mendel, il n'est pas question de gènes. Et d'ailleurs, ça se comprend parce que c'est 1865. 1865, on ne sait quasiment rien de la biologie. La théorie cellulaire est balbutiante. Donc on ne sait rien on ne connaît pas les chromosomes, on ne connaît pas la méiose, ce qu'on appelle la méiose. Il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas. Donc comment est-ce qu'il aurait pu imaginer les gènes ? Non. Donc, en fait, il faut lire le texte de Mendel. Et la seule chose qu'il connaissait, c'était ce qu'on appelle des caractères. Des caractères, c'est-à-dire les caractéristiques visibles des êtres. Et c'est ce dont il parle tout le long de l'article. Donc, les caractéristiques visibles. Et il en parle des caractères aussi bien pour les êtres adultes que pour les gamètes, les cellules. Donc, alors, c'est vrai qu'à deux endroits, il parle soit de facteurs, soit d'éléments. Mais c'est-à-dire, c'est de manière tellement vague qu'il faut vraiment avoir les yeux de la foi pour reconnaître ce que 40 ans plus tard, les généticiens ont appelé un gène. Donc, quand il parle, parce qu'il essaye un petit peu dans la discussion d'expliquer un peu ses résultats empiriques, il dit oui, dans les gamètes, il y a bien quelque chose qu'il appelle un facteur, mais c'est dans un sens tellement large, ça pourrait même être à la limite un facteur, le mot facteur au sens de cause générale, pas forcément d'entité matérielle précise. Donc voilà, je pense que ça serait un peu difficile de rentrer dans le détail des citations, parce que je m'appuie donc dans le livre, je fais une analyse fouillée, je donne des extraits de son article. Donc c'est au minimum une surinterprétation qui a été faite rétrospectivement du travail de Mandel. Alors pourquoi c'est important ? C'est pas juste pour du pointillisme historique, c'est qu'il y a un enjeu. Quel est l'enjeu là ? L'enjeu. Et alors, c'est ce mot arnaque, le mot arnaque qui peut effrayer des gens, parce qu'on parle d'une théorie scientifique, alors on va dire d'artifice. C'est que si, comme les généticiens le disent dans les livres de génétique, il y a eu une découverte empirique, parce que ce qu'on raconte, c'est qu'en quelque sorte, il a fait des expériences et qu'il a découvert empiriquement les gènes. Donc une découverte empirique, ça veut dire que c'est aussi absurde de contester l'existence des gènes que de contester l'existence de la Lune. On ne peut pas contester, si ça a été découvert empiriquement comme entité matérielle, on ne va pas contester l'existence. Or, il se trouve que ce n'est pas le cas. Et donc, quand on continue la lecture des textes fondateurs de la génétique, on s'aperçoit qu'en fait, donc il n'y a pas de gènes chez Mandel, puisque lui n'en parle pas. C'est quelque chose que prétendent, c'est rétrospectivement ce que prétendent les généticiens, et qu'en fait, la génétique est une construction. La génétique est une construction qui s'étale au minimum sur 40 ans pour qu'apparaisse la génétique, ce qu'on appelle la génétique classique, qui va se développer au début du XXe siècle. C'est une construction, et le gène, même lorsqu'il a été formulé en 1909 par Johansen, reste dans sa définition très très vague, c'est-à-dire que c'est un concept. Hein, ce n'est pas une entité matérielle précise, et ça ne l'a jamais été, même aujourd'hui. Il faut savoir que même aujourd'hui, on ne sait pas précisément, matériellement, qu'est-ce que c'est qu'un gène. C'est un concept qui sert, en fait c'est un concept comme tous les concepts scientifiques que nous créons pour décrire un certain nombre de résultats et expliquer un certain nombre de résultats. Alors pourquoi c'est important de différencier, parce que si c'est un concept, ça relativise, c'est-à-dire qu'on peut un concept, on est parfaitement en droit de le discuter, soit de dire voilà ce concept il faut le faire, il faut le changer, soit à la limite de l'abandonner, vous comprenez? Et donc c'est là que je parle moi d'artifice, c'est-à-dire de faire passer pour une découverte empirique quelque chose qui est en fait de l'ordre d'une élaboration conceptuelle.
On voit bien dans l'évolution de cette science qui naît donc à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on voit bien toutes les questions qui se posent à ce moment-là sur comment se transmettent les caractères des individus, comment, alors on va revenir sur ces termes-là, mais par exemple comment au sein d'une espèce les individus se transmettent de génération en génération certaines caractéristiques, et toutes ces questions-là font appel à la fois à des expériences et puis à des idées. Et des personnes dont tu parles, des scientifiques de cette époque dont tu parles, ne sont pas très sûrs, en fait, parce qu'on les voit évoluer d'un point de vue à l'autre. Tu parles d'un des grands découvreurs de cette époque, Morgan, qui hésite entre un déterminisme strict, c'est-à-dire vraiment les choses sont presque comme si elles étaient inscrites dans du marbre sur une entité matérielle, et puis il hésite, il n'est pas très à l'aise. Est-ce que tu peux nous expliquer cette discussion interne à cette science balbutiante et à ces hésitations qui montrent qu'on n'est pas sur du solide à ce moment-là?
Oui. Je ne pense pas que, là, sur ce point précis, je ne pense pas qu'on puisse parler de discussion. Je pense que les généticiens ont été pris par la force des choses, dans un double langage, qui conforte ce que j'ai dit tout à l'heure, qui fait que la génétique n'est pas une science au sens où on l'entend habituellement, mais une idéologie. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit. Donc effectivement, Morgan, c'est le premier généticien chez qui on peut repérer ça de manière éclatante, parce que c'est à l'intérieur du même livre où il va tenir à la fois les deux discours à des endroits différents du livre. Les généticiens, ils ont la volonté d'établir la génétique comme science dure, comme science expérimentale dure, qui s'appuie sur des lois, et ils énoncent des lois qui sont auxquelles Gérard a fait allusion, ce qu'on appelle les lois de Mendel, hein, et qui sont toujours valides aujourd'hui. C'est toujours enseigné, ça fait partie du corpus, tout étudiant doit les apprendre. Donc, c'est très précis, et ces lois, elles permettent de faire des prédictions très précises, quantitatives, sur ce qui va passer dans la transmission des caractères. Et or, ça c'est la génétique déterministe au sens dur, hein, c'est ce que tout le monde en vérité sait, et c'est comme ça que la génétique est comprise. Un gène détermine un caractère, vous héritez du gène dominant pour les yeux bleus, les cheveux de tel blond ou brun, ou etc. Vous héritez du caractère. Le gène détermine le caractère. Voilà. Et or, il se trouve... c'est la génétique, en vérité. Or, il se trouve que cette théorie, elle est infirmée dès le début. Et dès le début, les généticiens se heurtent à des évidences expérimentales qui montrent que c'est faux. Alors, rapidement, de quoi il s'agit ? C'est qu'en vérité, les relations... Si cette théorie était vraie, on devrait être capable d'établir une cartographie précise et claire reliant un gène à un caractère, ou un petit nombre de gènes. Or, très vite, on s'aperçoit que ce qu'on appelle un caractère... le mot caractère lui-même, tout à l'heure on a dit le gène c'est un concept et on n'a jamais su ce que c'est. Il faudrait définir précisément ce que c'est d'un point de vue objectif qu'un caractère. Mais enfin bon, on y reviendra peut-être. Donc un caractère n'est pas déterminé par un gène, mais par une multitude de gènes. Et une multitude, Morgan il va par moment jusqu'à dire par l'ensemble des gènes. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce que parfois, il y a des relations très fortes, des corrélations très fortes entre un gène et un caractère, mais parfois, elles sont faibles. Donc, on se focalise sur l'un, on ne voit pas les autres. Et en sens inverse, un gène n'affecte pas seulement un caractère, mais une multitude de caractères. Et donc, en fait, les relations, ce n'est pas des relations univoques qui relient les gènes au caractère, mais c'est quasiment tout le génome, l'ensemble des gènes qui sont impliqués dans la genèse de tous les caractères. Et ça, Morgan le dit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, après avoir énoncé les lois classiques de Mendel, etc., déterministes et tout, dans le dernier chapitre de par exemple, la théorie physique de l'hérédité, il décrit lui-même ses faits, c'est le résultat de ses propres expériences. Et il dit, ah là là, ce que je dis, ça pourrait peut-être sembler comme être une... Lui-même, il dit, il se rend compte, une réfutation de l'hérédité, parce que l'hérédité est quand même fondée sur l'idée qu'il y a des entités discrètes qui sont les gènes, qu'on peut relier à des caractères, à des entités discrètes qu'on appelle les caractères visibles. Oui. Or là, c'est le fouillis complet. Là où on croyait retrouver des belles relations bien claires, ordonnées, c'est le fouillis complet. Et donc, il dit, mais en fait... Et donc, il se rabat sur une définition totalement empirique. Il dit, mais il ne reste pas moins que par l'expérimentation, on est capable de quand même d'isoler des entités discrètes dans les chromosomes qui suivent les lois, ce qu'on appelle donc les lois de Mendel, c'est-à-dire que c'est les lois de la ségrégation, que ces entités se séparent et vont se répartir dans les gamètes, etc., etc. Mais il oublie complètement la relation au caractère. C'est-à-dire, c'est une description, il y a des entités... En gros, ce qu'il dit dans les chromosomes, mais il oublie la relation au caractère. Et donc, c'est une définition minimale de la génétique. Il y a des entités qu'on peut repérer, qu'on appelle les gènes dans le génome. Et alors, probablement, effectivement, ça réintroduit le développement embryonnaire. Puisque la génétique, au sens fort, elle met entre parenthèses le développement embryonnaire ne devient que la mise en œuvre de ce qui est écrit dans le génome. Mais là, toutes ces entités doivent collaborer entre elles pendant le développement embryonnaire. Et c'est à ce moment-là que se construit vraiment le caractère. Et donc, quand on lit, ce qui est étonnant, donc c'est à l'intérieur du même livre, mais tout au long de sa carrière, il a oscillé entre ces deux interprétations de la génétique. Et donc, mais sans jamais abandonner non plus. C'est-à-dire qu'on voit, il dit ça, mais 4 ans plus tard, il écrit un autre livre qui s'appelle « La théorie du gène ». Il va encore plus loin dans les chapitres introductifs, dans l'exposé du déterminisme mendélien, ce que classique. Et puis, 8 ans après, il écrit un livre qui s'appelle « Embryologie et génétique », où il fait demi-tour complet, il revient vers cette définition minimale. Alors, pourquoi c'est important? On va dire, ah bon, mais voilà, aujourd'hui c'est la biologie moléculaire, etc. Pourquoi revenir là-dessus? On est passé à autre chose, et puis maintenant c'est du solide, etc. Pourquoi? Mais parce qu'en ce moment, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en ce moment avec l'épigénétique.
Oui, c'est intéressant le parallèle que tu fais.
C'est qu'alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde l'histoire de la génétique, on s'aperçoit que ces deux conceptions coexistent tout le temps, et que c'est soit on peut les repérer chez le même chercheur. Alors, ce n'est pas un problème personnel d'attaque contre les chercheurs, puisque moi-même, au départ, je suis biologiste moléculaire, je le rappelle quand même pour éviter tout problème de personne. C'est juste parce que si on veut faire avancer la recherche et les idées, il faut aller au bout des choses. Donc, soit on le repère, ces contradictions chez le même chercheur, soit collectivement, c'est des bascules qu'opère la communauté des biologistes. Et on a un exemple fameux, qui est assez récent, c'est ce qui s'est passé au moment du séquençage du génome. C'est-à-dire que pendant 10 ans, au moins 10 ans, qui ont précédé le séquençage du génome, les biologistes ont expliqué que ça allait permettre, donc c'était la génétique dure, déterministe, qu'on allait isoler tous les gènes et qu'on allait pouvoir régler tous les problèmes solutionner tous les problèmes, guérir les maladies, etc. Ça allait être la clé, et même comprendre ce qu'est le vivant, et c'était logique, puisqu'on allait déchiffrer l'information génétique, la cause des phénomènes, puisque d'après la génétique, c'est logique. Et puis on séquence le génome, et alors là, en l'espace de c'est quelques jours, hein, je sais pas si c'est de l'espace de semaines, mais de quelques jours, on oublie tout ça. Et on commence à dire, on se rend compte très vite que les espoirs, ils sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, on n'est même pas tout à fait sûr du nombre de gènes qu'il y a dans le génome humain, hein, puisqu'on sait pas exactement où commence un gène et où il termine. Et puis, en quelques jours, c'est la bascule vers la version minimale, la version 12 de la génétique.
Oui, tu mets en parallèle deux versions, la version forte, causale.
La version forte, causale forte, et une version faible, qui est la version empirique de Morgan, où on dit voilà, il y a des entités mais qui doivent collaborer, puis ça reste à expliquer, et on passe là où effectivement on entend les discours, mais on sait bien que ce n'est qu'une étape dans la compréhension du vivant, que c'est un vivant, c'est un système, donc on parle de biologie des systèmes, il va falloir comprendre comment tout ça interagit, etc. Et il y a une de ces versions faibles, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que donc au lieu de remettre en cause la théorie qui a conduit à cette contradiction ou à cette impasse, d'aller au fond et de voir qu'est-ce qui cloche dedans. Non, c'est une stratégie connue dans l'histoire des sciences. On rajoute ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc. C'est-à-dire, c'est une couche... Parce que l'épigénétique, ce n'est pas une remise en cause de la génétique. On garde la génétique, c'est sur la génétique. Il faut lire toutes les définitions de l'épigénétique. On dit simplement, il y a la génétique, mais il y a quelque chose en plus. Il y a une couche... Mais on reproduit le même schéma de pensée déterministe, informationnel, puisque les biologistes parlent souvent de code épigénétique ou de choses de ce type-là. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui est en train de se produire, et on le comprend quand on a ce regard rétrospectif sur l'histoire de la génétique, que c'est ancré dès le départ. Et alors, évidemment, ça pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'une théorie qui est aussi, à ce point falsifiée par l'expérience peut se maintenir ?
Juste un commentaire rapidement. On serait en droit d'attendre que plus on sait des choses sur le génome, plus on conforte les hypothèses et les théories qu'on avait auparavant. Dans ce qu'on appelle l'ère post-génomique, c'est-à-dire après le séquençage du génome, on sait encore moins ce qu'est un gène qu'auparavant. Et en tout cas, sa matérialité, son entité physique, aujourd'hui, on ne peut plus la définir.
On va faire une petite pause musicale, s'il te plaît, Manik.
Yeah.
Toujours Radio Libertaire, la société dans tous ses états, sur Radio Libertaire, donc la voix du Unimed de la Fédération anarchiste. Nous sommes avec, nous accueillons avec Gérard Jean-Jacques Cupiac, qui est « Si le vivant était anarchique », c'est le titre de son livre, paru aux éditions Les Liens qui libèrent, et le sous-titre c'est « La génétique est-elle une gigantesque arnaque ?». Dans la première partie, Jean-Jacques nous a donné un éclairage tout à fait lumineux, si je puis dire, de la situation de cette génétique jusqu'à aujourd'hui. On voudrait maintenant lui demander, mais une fois qu'on a un peu fait le ménage dans tout ça, comment on peut aujourd'hui expliquer ou tenter de comprendre, de décrire ce qui se passe au moment du développement de l'embryon, et qu'est-ce que toi, quelles sont tes propositions, tes hypothèses, et sur quelle base tu t'appuies pour proposer une nouvelle approche de ces questions liées aux transmissions au sein chez les individus. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déblayé tout ça?
Ben, ce qui se passe, c'est qu'on bascule donc d'une vision autoritaire à une vision libertaire, voilà. Vision anarchiste du vivant. Rassure-toi, je vais expliquer de quoi il s'agit.
Bien sûr.
J'ai pas
tu resté
là pour ça. Mais je vais reprendre les choses peut-être un petit peu chronologiquement, comment ça s'est passé pour moi, oui, parce que ça permettra de comprendre. Parce qu'au départ, bon, je suis quand même biologiste. Donc la question, une des grandes questions de la biologie, c'est de comprendre donc comment les êtres se développent. Et donc nous sommes faits de milliards de cellules, mais toutes ces cellules proviennent d'une seule cellule, qui est l'œuf fécondé. Oui. Et donc la question qui se pose, c'est comment au cours du développement embryonnaire, les cellules deviennent différentes les unes des autres. Il y a certaines cellules qui deviennent des cellules musculaires, d'autres qui deviennent des cellules nerveuses, d'autres qui deviennent des cellules de la peau. Et toutes ces cellules, elles sont différentes. Elles ont des caractéristiques morphologiques et chimiques différentes. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'une situation d'une seule cellule, il y a cette hétérogénéisation des cellules? Et donc, comme on l'a dit au début de l'émission, le schéma classique, c'est un schéma déterministe. Or, ce schéma déterministe, il porte une contradiction. On va voir l'aspect théorique et l'aspect expérimental. Il porte une contradiction qui est théorique. C'est que donc, on suppose toujours, on en revient à ce modèle instructif, que ce qui fait qu'une cellule change d'état, parce que c'est ça donc la question qui est posée, c'est qu'elle reçoit un signal d'une autre cellule. C'est ça le modèle. Et donc, il y a une cellule émettrice et réceptrice. Donc, ce modèle, il est obligé de présupposer d'emblée une asymétrie, une hétérogénéité entre une cellule émettrice qui donne l'ordre, qui donne l'instruction, et une cellule réceptrice qui obéit, qui reçoit l'information, qui reçoit l'instruction. C'est théorique. Donc, il y a des échappatoires, mais ce que je veux dire, en tant que système de pensée, c'est pas un système de pensée qui peut permettre de penser, d'envisager la création de l'émergence de l'hétérogénéité cellulaire. Et pour moi, le seul moyen, et ça c'était vraiment le point de départ, le déclic, encore quand j'étais étudiant, quand j'étais très jeune, hein, il y a longtemps, le seul moyen d'échapper à ce mode à sortir de cette contradiction, hein, c'est de penser qu'en fait il y a des événements aléatoires qui se produisent dans les cellules et qui vont faire que une cellule peut ainsi si l'événement aléatoire petit a, hein, qui sont une interaction moléculaire, l'activation d'un gène au hasard, quelque chose comme ça, se produit dans une cellule. Cette cellule, elle devient d'un certain type. Et si c'est un autre événement aléatoire qui se produit, donc qui est quelque chose qui est interne, qui est intrinsèque aux cellules, cet aléa, dans une autre cellule, elle se transforme dans un autre type cellulaire. Donc ça, c'était le point de départ. Et dans la mesure où je ne vois pas d'autre moyen de pouvoir penser l'émergence d'hétérogénéité au cours du développement, moi, je suis devenu convaincu que c'était dans cette voie qu'il fallait s'engager. Alors, en même temps, évidemment, j'ai regardé du point de vue expérimental, est-ce que c'était compatible avec ce qu'on sait. Donc là, je parle d'il y a très longtemps, quand j'ai écrit mes premiers papiers. Et déjà, à l'époque, je ne vais pas revenir là-dessus, si on relisait les papiers, on s'apercevait qu'on pouvait réinterpréter des données qui étaient connues dans un sens qui allait dans ce sens-là. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est démontré expérimentalement. Cette expression aléatoire des gènes, donc moi, j'ai parlé d'expression probabiliste des gènes dès mon premier article 1983, et qui en vérité, j'en avais parlé déjà dans un colloque en 1981, et à l'époque j'avais eu un peu de mal à le publier, c'est quelque chose dont je parlais déjà un petit peu avant, que j'avais élaboré un petit peu avant. Et donc, cette expression qui au départ c'était une prédiction, aujourd'hui c'est confirmé expérimentalement. On sait que les gènes, il y a au minimum une grosse composante aléatoire dans l'expression des gènes, contrairement à la théorie déterministe qui dit que les gènes ils suivent un programme. Et alors comment on l'a démontré ? C'est que jusqu'en gros les années 90, quand on voulait expérimentalement étudier quels sont les gènes exprimés dans une cellule, ça veut dire quelles sont les protéines fabriquées ou les ARN fabriquées à partir des gènes dans une cellule. C'est ça l'expression des gènes, et c'est ça qui va faire qu'une cellule va être différente, les cellules vont être différentes les unes des autres, c'est qu'elles n'expriment pas exactement les mêmes gènes. Et donc, en fait, pour des raisons de limitation technique, on était obligé de prendre beaucoup de cellules en même temps pour étudier ça. Donc des millions de cellules. Et comme on prenait des millions de cellules et qu'on malaxait tout ça dans le tube, on mélangeait tout ça dans le tube à essai pour avoir assez de matériel, ben, on avait accès en fait à la moyenne de l'expression des gènes dans des très grandes populations de cellules, dans des millions de cellules. Et s'il existe des petites variations aléatoires d'une cellule à l'autre, on ne les voyait pas, puisqu'on n'avait accès qu'à la moyenne, on n'avait pas accès à la variance. Or, à partir du moment où sont apparues des techniques qui ont permis d'aller voir cellule par cellule comment s'expriment les gènes, on s'est aperçu que, y compris dans des cellules soi-disant homogènes, appartenant au même type cellulaire, il y a toujours des variations d'expression des gènes d'une cellule à l'autre. Il y a toujours une hétérogénéité d'expression des gènes d'une cellule individuelle à une autre. Et le seul moyen qu'on a pour rendre compte de cette variabilité de l'expression des gènes, c'est d'employer ce qu'on appelle des modèles stochastiques, c'est-à-dire des modèles probabilistes qui sont fondés sur les lois de probabilité. Donc, cette vision, on remplace, donc ça, il faut l'intégrer, et donc ça permet de conforter le modèle que j'ai proposé il y a déjà longtemps, effectivement, c'est que d'une part, les cellules, elles ne suivent pas un programme préétabli, elles portent en elles une grande part d'aléas, ce qui leur est intrinsèque, c'est une grande variabilité, mais qu'elles utilisent, dans le même temps, elles sont contraintes par leur environnement, par la société cellulaire, par leur environnement cellulaire, c'est-à-dire qu'une cellule ne peut pas faire n'importe quoi. En fonction de ce qui se passe chez les voisines, par la force des choses, elle est contrainte à coopérer avec sa voisine, donc à exprimer des gènes qui vont lui permettre d'interagir de manière positive avec ses voisines. Et donc, c'est cette vision-là d'un hasard utilisé collectivement, régulé collectivement par la société cellulaire, que dans mon livre, j'appelle ça justement cette vision anarchique du vivant et que je propose pour remplacer la théorie du programme génétique.
Il y a deux termes importants que tu as utilisés. Il y en a un qui renvoie à une notion fondamentale hein, qui apparaît maintenant dans les sciences du vivant, qui est celle de variabilité. J'aimerais que tu nous développes un tout petit peu sur cette notion. Et puis après, on reviendra sur une autre notion qui se rapproche peut-être un peu plus de l'anarchie, hein, qui est celle de la coopération. Et tu nous en diras aussi un petit peu plus avec la lecture que tu fais très intéressante de Kropotkin. La variabilité.
La variabilité, première remarque. Il y a quelque chose quand même assez curieux, c'est que dans l'état actuel de la biologie, s'il y a un domaine où règne la variabilité, c'est bien le vivant. Parce que je ne sais pas s'il y a un seul paramètre biologique qui n'est pas soumis à la variabilité. Hein, contrairement à ce qui se passe en physique, dans le domaine physique, voilà. Et alors, mais cette variabilité n'est pas du tout prise en compte. Malgré cela, on considère pas du tout que cette variabilité pourrait être le signe que le vivant est un phénomène intrinsèquement stochastique et que cette variabilité, elle peut avoir un rôle très important dans le fonctionnement du vivant.
Stochastique, probabiliste.
Stochastique ou probabiliste, c'est synonyme. Donc, on la laisse, on dit voilà, c'est du bruit de fond, c'est du bruit.
C'est de l'accident.
C'est de l'accident, voilà, c'est de l'ordre de l'accidentel. On appelle ça du bruit. Le mot qui est employé beaucoup en biologie, c'est le bruit. Le bruit par rapport à un fonctionnement déterministe, c'est-à-dire la marge de fluctuation. Hein, voilà. Et donc ça, c'est première remarque. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui, par rapport à ça, là, parce que ce problème se posait déjà dans les sciences naturelles, comment interpréter la variabilité des individus, et c'est tous les débats dans les sciences naturelles qui ont précédé l'éclosion de la théorie de l'évolution. Et il y a un penseur qui a fait introduire et qui a reconnu toute la place de la variabilité, c'est Darwin. C'est-à-dire que Darwin, par rapport aux visions fixistes des êtres vivants, et donc du vivant, il a fait de la variabilité, il explique à un moment, la sélection ne fait rien sans la variabilité. C'est-à-dire que la variabilité, c'est le moteur de l'évolution. Pour qu'il puisse y avoir sélection, il faut d'abord qu'il y ait variabilité. La variabilité, la génération de diversité, d'une diversité d'êtres vivants, c'est le substrat sur lequel peut opérer ensuite la sélection. Et donc, peut se produire une évolution.
Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la sélection qui va
amener... Ah non, la variabilité précède la sélection. Et puis il faut lire Darwin. Donc Darwin.
Le mot sélection a une connotation devenue péjorative, parce qu'on a l'impression que si on dit sélection, il y a un sélectionneur. Parce que c'est une analogie avec l'élevage.
Exactement. Voilà. Donc le problème le mot sélection. Darwin, il s'est trouvé confronté. Comment expliquer sa théorie? Donc il le dit lui-même. C'est une métaphore. Le mot, la sélection. Et il voulait expliquer. Donc, on a besoin de. Comme le vivant, c'est pas une science mathématique, donc ça passe par le langage naturel. Il a pris l'exemple des éleveurs qui sélectionnent un variant pour créer une nouvelle race. Mais il prend bien soin de dire que ce n'est qu'une métaphore. Ce n'est qu'une métaphore au départ. Alors, vu la connotation du terme, ensuite, ce qui s'est passé par la suite...
Avec le darwinisme social.
Avec le darwinisme social, et puis même le nazisme. Oui. On parlait de sélection à Auschwitz, donc c'est un mot qui est très lourdement chargé. Oui. Donc, évidemment que moi, ça ne me dérangerait pas de changer de terme. Hein. Je ne suis pas attaché à ce terme. Sauf qu'il faut bien se faire comprendre. Oui. Donc, voilà. Alors, c'est déjà assez difficile comme ça, mais si je me mets à changer tous les mots, on va faire une
comprendre. Tu cites deux exemples que j'ai trouvé intéressants. C'est celui des... Alors, tu prends deux individus appartenant à la classe des carnivores qui sont en lutte pour accéder à des ressources, une ressource rare. Et puis, la plante qui vit au bord du désert et qui, pour laquelle il y a très peu d'humidité. Est-ce qu'on... Justement, très belle illustration.
Mais ça, c'est Darwin. Hein. Je cite. Alors, le problème de Darwin, c'est que Darwin, c'est comme beaucoup de gens, on a retenu quelques petites phrases et puis on a oublié beaucoup de choses. Il y a une lecture très partielle et on a retenu une vision, enfin, c'est très, très partiel, qui en fait défigure complètement ce qu'a réellement écrit et dit Darwin. Donc effectivement,
il avait un grand lecteur qui était Kropotkin. On va revenir après.
Et donc, au moment où il parle de lutte pour l'existence, il s'empresse de dire, dans la même phrase, dans le même paragraphe, attention, ce n'est qu'une métaphore. Ce n'est qu'une métaphore. Et il donne des exemples, les exemples que tu viens de citer, pour expliquer qu'est-ce qu'il entend par lutte pour l'existence. Il dit, alors, il dit, il y a des rares cas où on peut parler d'une lutte directe entre les individus, hein, mais le plus souvent, c'est l'exemple de la plante, la lutte pour l'existence d'une plante qui est dans le désert et qui va lutter pour avoir un peu d'eau. Et en vérité, quand on le lit, on comprend que ce qu'il veut dire, c'est les contraintes. On est toujours contraint par un environnement, et que dans cet environnement, il y a une lutte. Mais l'environnement, c'est aussi les conditions physiques. Donc l'exemple qu'il donne, c'est pour arriver à capter un peu d'eau. Donc pour arriver à capter un peu d'eau, la plante devra développer des feuilles d'un certain type qui lui permettront de récupérer les traces d'eau qu'il y a dans le désert. Et donc c'est une contrainte physique, où il n'est plus question de lutte entre les individus. Alors le problème, c'est que le darwinisme social, qui c'était pas Darwin, c'est des gens qui étaient des amis de Darwin, Spencer, Huxley, etc. Mm-hmm. Ils se sont emparés de bribes pour ne garder que ça, et puis il y a un article célèbre d'Huxley où il parle de lutte de gladiateurs, mais en fait il faut lire Darwin pour voir que c'était beaucoup plus complexe, et il parle aussi de dépendance mutuelle, puisqu'il donne aussi des exemples où il dit que on n'est jamais seul, et qu'en vérité alors c'est vrai qu'il parle aussi de compétition, il y a les deux, mais moi je vois ça comme quand on lit Darwin, on voit qu'il y a compétition et obligatoirement coopération, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence, il y a une complexité des rapports sociaux qui fait que, parce qu'une plante elle est en compétition par exemple, mais on prend un prédateur, le renard ne doit pas manger tous les lapins parce qu'il n'aura plus rien à manger. Oui. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Une précision peut-être aussi, on parle beaucoup souvent de survie quand on parle de Darwin. En fait, l'important c'est le différentiel dans la descendance, celui qui va se reproduire le plus et qui donc va avoir le plus d'individus à travers les générations. C'est pas forcément la survie, et puis c'est pas forcément le mieux adapté, et je pense que tu vas y venir, on peut avoir un avantage sélectif, évolutif, à travers des coopérations aussi, bien sûr.
Oui, c'est l'entraide de Kropotkin, hein, qui est un grand lecteur de Darwin, et en particulier de La filiation de l'homme, hein, le livre de Darwin qui a suivi L'origine des espèces. Et tu dis dans ton livre, le but de la société anarchiste est alors d'assurer le développement de l'individualité, c'est-à-dire la pleine individuation de ses membres, qu'il s'agit de ne pas confondre avec l'individualisme. Hein.
Et donc, c'est Kropotkin. Là, je cite Kropotkin directement. Et Kropotkin dit des choses que, bon, je cite, alors là, je pense qu'il y a peut-être aussi, en tout cas, Kropotkin le dit, la liberté absolue n'existe pas. Mmh. C'est-à-dire que Robinson, dans son île, il est déjà contraint, il est pas totalement libre. Mmh. Et donc ça ressemble d'une certaine manière à ce que disait Darwin sur la plante dans le désert. Mmh. Hein. C'est pour ça que j'ai mis cette citation. Il n'y a pas de liberté absolue idéale. La vie sociale implique des contraintes, y compris dans une société anarchiste.
Une autre précision pour pas caricaturer Darwin, dans l'origine la filiation de l'homme, oui. Voilà. Il parle aussi de sélection sexuelle. Mmh. On pourrait dire que c'est une théorie presque féministe, puisque les individus sont sélectionnés par le choix du reproducteur par la femelle. On le voit très bien chez les oiseaux. Il se rend compte que chez beaucoup d'oiseaux, de mammifères, etc., les mâles sont beaucoup plus beaux, entre guillemets, que les femelles, à cause du choix de génération en génération des reproducteurs par les femelles. Et c'est un processus qui est à l'œuvre, et qui est toujours à l'œuvre et qui est important dans la nature.
Et alors, pour en revenir à l'origine donc de notre discussion, on était parti sur le développement embryonnaire et on a fait un détour par Darwin, et on va revenir au développement embryonnaire parce que tu avais introduit cette notion de variabilité et tu parles donc de la société des cellules comme d'une société autogérée. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que tu montres que les cellules, elles se différencient dans un processus de mutualisme.
Oui.
En fait, en s'échangeant de l'information...
Non, pas de l'information, par exemple, des substrats nutritifs.
Voilà, c'est ça. Voilà, il y a ces expériences, justement, où il y a une couche de cellules qui est au contact d'un substrat nutritif.
C'est l'exemple un peu qui sert de modèle pour représenter ça, oui.
Et donc, à partir de cet accès au substrat nutritif, des métabolites qui vont pouvoir être transférés de couche de cellule en couche de cellule pour permettre l'apparition de nouveaux types de cellules.
Pour penser la croissance d'une colonie cellulaire dans l'espace à trois dimensions, puisque nous sommes au départ un embryon, c'est un amas de cellules, c'est une colonie cellulaire, c'est un amas, il y a obligatoirement des différenciations qui se créent par la position des cellules par rapport à l'extérieur, et l'extérieur qui est source de substrat.
Et à mon avis, c'est de là que vient l'alimentation.
Les nutriments, la bouffe, c'est de là que vient la bouffe. Oui. Or, les cellules, c'est comme nous, elles ont besoin de bouffe pour vivre. Oui. Et donc, il y a un problème qui se pose immédiatement pour qu'une société cellulaire que nous sommes puisse continuer à exister, c'est qu'il faut que toutes les cellules aient de la bouffe à manger. Oui. Et or, les cellules, on comprend facilement ça, les cellules qui se trouvent au centre du tas de cellules, elles n'ont pas un accès direct à la bouffe. Il faut obligatoirement qu'il y ait un transfert de nourriture de l'extérieur vers l'intérieur. Et à la limite, ce transfert, donc il y a obligatoirement des gradients métaboliques qui vont se former. Et ça, on sait que ça existe un peu. Oui. Il y a des exemples des traces. Bon, c'est pas massif, mais c'est pas totalement dénué de. Il y a une base expérimentale aussi pour ça.
Et tu cites aussi dans ton livre des expériences qui ont été faites sur des.
Juste pour terminer, c'est là qu'on voit bien le côté. Oui. Les cellules, elles sont à la fois chacune individuelle, mais en même temps, elles sont prises dans des contraintes qui les obligent à se conformer à la structure du tas de cellules. Donc, une contrainte qui les dépasse. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut émerger.
Et tu cites dans ton livre quelques expériences. Il y a celle-ci, donc des cellules qui ont accès aux nutriments et puis qui vont se développer les unes par rapport aux autres en fonction de cet accès direct ou pas. Et aussi d'un ensemble des événements qui surviennent de manière, paroxystique, qui font que des cellules vont se différencier à un moment particulier. Je pense à l'expérience qui avait été menée par Grandillon sur le sang de poulet et qui entraînait à partir des cellules souches qui entraînaient des différenciations.
Oui. En fait, c'est une expérience qu'on a fait ensemble, oui. Une prédiction que j'avais faite très très tôt, justement pour vérifier expérimentalement cette théorie. Donc, qu'est-ce que dit cette théorie ? En gros, c'est quand il y a différenciation, c'est pas parce qu'une cellule reçoit un signal qui lui dit de faire... Non, c'est parce qu'elle commence par chercher au hasard. Elle fluctue de manière aléatoire, et à un moment donné, elle trouve un mode d'être qui leur permet de coopérer avec leurs voisines. Oui. J'essaie de me faire comprendre, donc j'en prends des mots le moins scientifique possible, mais le mode d'être, c'est l'expression de certains gènes. Donc elles trouvent un mode d'être ou un profil d'expression qui leur permet de coopérer avec leurs voisines. Et donc, on peut faire une prédiction. La période de recherche aléatoire, si on est capable de mesurer la variabilité d'expression des gènes d'une cellule à l'autre, On doit avoir un pic transitoire, une augmentation transitoire de la variabilité de l'expression des gènes qui précède la différenciation. Le moment où il y a sélection ou stabilisation de certains modes d'être qui correspondent à la cellule différenciée. Donc ça, c'est une prédiction que j'avais faite. Et en fait, on avait commencé à la tester avec Thomas Eames, qui à l'époque faisait sa thèse avec moi. À l'époque, c'était les techniques étaient très rudimentaires. C'était un travail difficile techniquement. Et en plus de ça, nous n'avons reçu aucun soutien institutionnel pour faire ce travail. Mais déjà, à l'époque, j'étais en contact avec Olivier. On a continué à collaborer. Ça a été une longue collaboration. Et effectivement, aujourd'hui, grâce à l'obtention de crédits tardifs, grâce à l'apparition de techniques qui facilitent beaucoup cette expérience, on l'a démontré qu'effectivement, cette prédiction qui n'a aucun lieu d'être dans le cadre de la théorie déterministe, il n'y a aucune raison d'observer cette prédiction transitoire, on l'a vérifiée expérimentalement et l'expérience a été reproduite par d'autres laboratoires. Donc c'est une vérification expérimentale du modèle.
Donc ce modèle probabiliste de l'expression génétique, aujourd'hui, il est de plus en plus corroboré, mais pourtant, il reste encore de très fortes résistances à ce modèle. Pourquoi
on... ça rejoint un peu la... J'ai déjà posé la question tout à l'heure. Comment se fait-il que la génétique... Qu'est-ce qui explique la résilience de la génétique? Qu'est-ce qui explique la résilience d'une théorie donc, que j'ai expliqué qu'elle était déjà infirmée il y a 100 ans, et puis en fait ça ne fait que plus ça va, moins ça va pour la génétique. Il y a de plus en plus de masse, une masse de données expérimentales, qui la contredisent. Et pourtant le discours se perpétue. Alors donc c'est pour ça que je parle d'idéologie maintenant. Je dis c'est pas une théorie scientifique, c'est une idéologie. Et moi, une piste de réflexion, c'est qu'en vérité, c'est aussi ce que j'ai dit, elle porte des messages qui dépassent le domaine strictement scientifique. C'est qu'elle soutient une vision inégalitaire hiérarchique de la société. C'est-à-dire que ce qu'elle nous dit, c'est qu'il existe un ordre naturel. Auquel nous ne pouvons pas échapper.
C'est une substitution au divin.
Chacun est à sa place en fonction de ce qui est écrit dans son ADN. Donc, selon les gènes que vous portez, vous serez PDG ou ouvrier, vous serez blanc ou noir, vous serez ceci ou cela, grand, petit, etc. Et donc, c'est cette vision. La génétique est une idéologie qui participe et qui fait partie de l'idéologie dominante. Et voilà, et donc je sais que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à entendre pour beaucoup de gens, parce qu'ils sont attachés à préserver une ligne de démarcation nette entre la science et les autres pratiques sociales. Mais là, il y a un problème pour moi. Il y a un problème. Bon, c'est une piste de réflexion, mais je ne fais que constater les choses.
Non, juste une précision d'ailleurs. La notion de programme, elle a émergé en même temps à différents endroits, mais notamment Jacob et Monod. Et Jacob et Monod, c'était après la démonstration d'un modèle qui a été très connu, qui s'appelait l'opéron lactose, où ils définissaient des gènes maîtres et des gènes effecteurs. Et cette notion de programme vient de cette notion de gènes maîtres.
Dans le dernier chapitre de ton livre, donc, qui s'intitule « Réponse à quelques objections », une des objections qu'on fait au modèle que tu envisages et que tu défends, c'est « ce n'est que de la philosophie, ça ne sert à rien ». Fondamentalement, il y a ce que tu disais, cette résilience et cette résistance à rester sur un acquis bien solide et qui correspond à un état de la société à un moment donné, qui correspond à une idéologie, qui correspond à une vision du social. Il y a aussi une réflexion qui va beaucoup plus loin sur qu'est-ce que c'est que la science, l'épistémologie. Exact. C'est cette réflexion-là que...
Ce qui est en jeu, ce à quoi je fais allusion là, c'est le scientisme, c'est-à-dire une mécompréhension complète. Donc c'est effectivement pour beaucoup de... Surtout chez les biologistes, je vais parler parce que c'est ce que je connais le mieux, une croyance qu'il n'y a que de l'expérimentation. Comme si tout ce qui compte, c'est d'avoir des outils de plus en plus puissants, d'avoir une caméra parfaite qui permettra d'aller voir molécule par molécule et qu'on aura une lisibilité immédiate et qu'on pourra se passer de théorie. J'exagère à peine quand je dis ça. Et donc tout ce qui est réflexion théorique, c'est du blablabla qui sert à rien. Et le problème, c'est pour ça que, en vérité, c'est là on retrouve le problème de l'artifice et de l'arnaque, c'est qu'en fait derrière ça, ce qu'on s'aperçoit quand on fouille les choses, c'est que les gens qui tiennent ce discours du primat de l'expérimentation et qui prétendent ne faire que de l'expérimentation, ils véhiculent des conceptions théoriques très 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 lourdes. Et c'est là on en revient au début de l'émission quand on parlait des premiers généticiens.
Oui. Merci beaucoup Jean-Jacques pour ce travail que tu as mené et pour l'exposé très clair que tu nous en as fait. Je rappelle le livre « Et si le vivant était anarchique ?» sous-titré « La génétique est-elle une gigantesque arnaque ?» et c'est paru au lien qui libère, donc Jean-Jacques Kupiec. Merci à toi Gérard. Merci. Est-ce qu'on peut rappeler que tu as aussi écrit « La légende des gènes », c'était paru il y a quelques années déjà. Oui. Rappelle-nous chez quel éditeur
C'était chez Duno.
Voilà, « La légende des gènes ».
Un livre important, je veux dire, c'est un livre important.
Merci Jean-Jacques.
Non, c'est un livre important et je dirais que Gérard, qui est médecin de formation, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'il a plus, disons par rapport à moi, plus traité traité de l'aspect médical des gènes des maladies, des, et il est revenu sur toute cette histoire des gènes des maladies et l'aspect médical de la génétique.
Merci à vous. On va se mettre un petit peu de musique, s'il te plaît, Monique.